Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de l'OTA Club. Pourquoi hors série ? Parce qu'aujourd'hui, on l'enregistre dans des conditions particulières. On est en live sur Twitch, et oui, sur la nouvelle chaîne Onino Manga sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre si vous aussi vous voulez assister à l'enregistrement en direct de ces épisodes. Je suis bien évidemment avec Peli. Coucou Peli.
Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez, sur cette rediffusion donc du podcast. On est en live et encore merci à tous les follow qui viennent pour nous suivre en live.
Et oui, ça fait trop plaisir, merci à vous. Donc ce soir, on va faire deux mangas, deux lectures en commun, Isabella Bird et Season Life. Donc vu que nous sommes sur Twitch, n'hésitez pas à participer dans le chat et nous, on retranscrira du coup vos questions et remarques pour que ça puisse animer un petit peu aussi cet épisode.
Donc,
déjà, est-ce que, oui ou non, des gens ont lu Isabella Bird ou Season Life ? Sachez que si vous avez lu ni l'un ni l'autre, c'est une erreur. Voilà. Moi, je pose ça là. Je sais pas toi, Peli, mais j'ai adoré les deux séries.
C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Alors pour Isabella Bird, moi personnellement, je suis totalement sorti de ma zone de confort parce que c'est vraiment du pur slice of life et j'ai pas l'habitude du tout de lire ça. Mais j'ai pas été mécontent, justement, ça fait du bien. Et pour Season Life, on retourne un peu dans ma zone de confort vu que c'est une enquête policière thriller, donc ça me plaît bien.
C'est vrai. Alors, moi, pour le coup, je suis très, très fan de la tranche de vis. Ça doit être mon style de manga préféré. Parce qu'en vrai, ça veut tout et rien dire. C'est super large. Ça n'a aucun sens de dire tranche de vis. Donc, c'est pour ça que j'adore. C'est selon si tu as envie d'une petite histoire tranquille, d'un truc un peu barré, ça peut être rangé dans la tranche de vis. Et Isabella Bird, c'est un récit d'aventure. Et tu sais ce que j'ai appris tout à l'heure ? Eh bien, c'est qu'Isabella Bird a existé. Et c'était vraiment une exploratrice, et je ne savais pas. Tout à l'heure, j'ai tapé Isabella Bird, et je suis waouh, mais oui, c'est basé sur un personnage historique qui a effectivement traversé le Japon, entre autres. Et du coup, en lisant un peu sa bio, je me suis spoilé la fin. Voilà. J'étais très triste.
Par contre, c'est pas malin.
Ah ouais, je pensais pas. Enfin, je me suis spoilé la fin. Moi, je suis allée jusqu'au tome 10. Toi, t'as pas été jusqu'au bout, il me semble encore.
Moi, j'en suis pour le moment au tome 8.
Voilà, donc il me semble pas que l'info en question ait déjà été mentionnée dans le tome 8. Mais bon, en vrai, ça te balance une bombe à un moment. Et voilà. Du coup, je sais comment ça va terminer. À moins que l'auteur ne prenne une petite liberté.
Liberté créative.
Voilà, pour refaire à sa sauce. Parce que Ito, il me semble pas qu'il existe.
Non, peut-être qu'il a été. Oui, après, peut-être qu'il a été rajouté au scénario histoire de romancer peut-être un peu le récit.
Sinon, on s'ennuierait quand même, ce serait très triste. Est-ce que tu veux nous présenter Isabella Bird, vu que toi, t'as eu du mal avec le début ?
Ah oui, un peu de mal. Bon, ça va, y a pire. Donc, du coup, Isabella Bird, donc, je ne connaissais absolument pas. J'en avais entendu parler très rapidement par ma compagne, par toi-même aussi qui m'en avait parlé. Donc voilà, j'ai voulu découvrir ça parce que c'est vrai que le récit de base est assez intéressant. Donc on est à la fin du 19e siècle, le Japon commence à s'ouvrir sur le monde et nous avons donc la jeune et pétillante Isabella Bird, exploratrice émérite qui a déjà plusieurs ouvrages à son actif, elle a visité des volcans en éruption, elle a fait le tour de certaines îles, enfin bon, elle est assez connue dans la profession. Et elle se donne un objectif, c'est de traverser de part en part le Japon et d'arriver jusqu'à l'île de... Alors, je vais un peu tricher. C'est Ezo, je crois.
Ouais, l'ancien nom d'Hokkaido.
Oui, l'île d'Ezo. Donc, voilà, c'est son objectif, sauf que c'est un voyage très périlleux, très dangereux. Et au fur et à mesure du récit, on va apprendre qu'Isabella a malheureusement une maladie qu'elle traîne depuis qu'elle est toute jeune qui font que ce voyage sera encore plus compliqué. Et au début, oui, c'était un peu ennuyeux parce que comme je disais, j'ai pas la... Alors, tu disais toi que c'est tranche de vie vraiment large. Moi, j'avais un peu de mal au début parce que oui, ce côté un peu tranche de vie où dans les deux premiers tomes, le suspense, c'est de savoir si elle va avoir son passeport. Si tu veux, on tremble un peu. Donc voilà, je me disais, j'ai pas trop l'habitude de ça. Moi, j'ai plus l'habitude de récits où l'avenir de la planète est en jeu et il faut que Sangoku prenne les 7 boules de cristal pour la sauver. Donc voilà, ça me changeait un peu.
C'est pas le même niveau de gravité, c'est vrai. Et donc, voilà. Je réponds à la question de notre chat. Non, Isabella Bird n'est pas japonaise, c'est une anglaise.
Elle n'est pas japonaise, elle est britannique, donc elle arrive un peu dans un monde complètement différent du sien, surtout que c'est une jeune, entre guillemets, une fille une femme noble. Donc,
fille de pasteur.
Fille de pasteur, tout à fait.
C'est ça, donc avec bien son éducation.
C'est ça.
Alors, c'est protestante, du coup, anglaise.
Très carré, très.
Voilà. Le col jusqu'ici, la robe jusqu'au sol, voilà.
Et elle arrive dans un Japon qui est encore un peu paysan, donc on voit souvent les femmes et les hommes se dénuder, avoir des coutumes particulières. Alors Isabella, elle est complètement au début dépassée par ses coutumes, mais au fur et à mesure, on va apprendre grâce à donc Ito, qui sera son interprète qu'elle va engager dès le premier tome, donc qui lui parle très bien anglais. Et au fur et à mesure du récit, on va savoir pourquoi, hein, parce qu'il y a une raison, bien sûr, à ce que Ito parle aussi bien anglais.
Plein de mystères, ce garçon.
Il va lui expliquer. En fait, ce qui est magnifique dans ce récit, c'est qu'il y a un échange entre les deux. Alors qu'on pense que Isabella ça va aller que dans un sens, et que c'est Ito qui va apprendre à Isabella comment fonctionne le Japon, on s'aperçoit qu'en fait il y a un échange. Isabella en apprend sur le Japon et en même temps Ito lui en apprend sur comment fonctionnent les Européens, voilà, et comment fonctionne le monde en général. Et moi c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce récit, parce que c'est pas un échange dans un seul sens, et malgré tout au fur et à mesure des tomes, je me suis pris à me dire tiens, je suis pressé d'enchaîner le prochain, voilà. Donc c'est une très bonne surprise pour moi et je regrette vraiment pas de l'avoir lu.
Non, c'est vrai qu'en fait, ils ont chacun un pied de chaque côté de la balance. C'est-à-dire que Isabella, donc, comme tu disais, très enthousiaste de découvrir le Japon, même quand c'est des trucs un petit peu archaïques, elle est trop contente. Il y a un chapitre, par exemple, où elle tombe sur deux femmes qui fabriquent du papier. Mais elle dit, le papier de qualité de fou comparé à ce qu'on a en Angleterre, mais elle lui apprend à faire et tout, elle est comme une dingue de voir ça. Et d'un autre côté, au bout de plusieurs semaines à dormir dans un lit avec des puces et des tiques et toutes les bestioles qui traînent, elle pète juste un câble. Et quand elle en parle à Ito, on voit que ça le froisse, parce que quelque part, elle attaque son pays et sa façon de vivre. Donc voilà, tout de suite, il va se braquer, il parle plus. Mais d'un autre côté, il y a un autre passage où ils vont arriver dans une grande ville, où elle voit tout le monde en costard, et elle dit « Oh, c'est dommage, pourtant, les Japonais sont tellement beaux en kimono, pourquoi ils mettent des costards ?» Et Ito lui dit « Ouais, mais bon, faut bien montrer au reste du monde qu'on est évolué, nous aussi. » Donc lui aussi, voilà, il y a d'un côté, c'est mon pays, c'est la tradition, c'est ok, mais un peu de modernité, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Donc ouais, ils n'ont pas le même pied de chaque côté de la balance, donc c'est pour ça qu'effectivement, l'échange entre eux marche bien, et que ouais, c'est un duo qui fonctionne, en fait. Ils sont bien trouvés.
Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis moi ce qui m'a surpris, c'est dès les premières pages, on voit qu'Isabella, elle est très, comme dit Osegitu, très aristocrate, pardon. C'est très particulier, on a l'impression, on se dit, bon, elle va faire 200 mètres et elle va se plaindre des piqûres de moustiques, etc., etc. Et non, au fur et à mesure des pages, au contraire, on se dit, mais... Ah ouais, c'est vraiment une exploratrice, quoi, voilà, on...
Elle a peur de rien, en fait.
Voilà, c'est ça, elle a peur de rien, elle y va, elle voilà, et parfois même la curiosité la pousse à faire des choses...
un peu dangereuses.
Un peu dangereuses, ouais, carrément, autant dire.
L'épisode de l'incendie au secours.
Donc... Voilà, je veux dire, à un moment, t'as un village qui est incendié, voilà, elle n'hésite pas à y aller, quoi. Elle n'hésite pas aussi à approcher des paysans malades, parce qu'à un moment, il y a tout un village qui est malade, elle arrive à guérir, parce qu'elle a forcément des remèdes que n'ont pas les Japonais. À guérir une Japonaise et d'un coup, il y a tout le village qui arrive en mode un peu lépreux. Enfin, ils ont des maladies qui sont très simples à guérir pour les Européennes, mais pas forcément pour les Japonais. C'est la Wonder Woman de son temps. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça.
C'est à peu près ça, ouais.
Tout à fait ça. C'est la Wonder Woman de son temps. Et est-ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'au fur et à mesure des tomes, on a entre guillemets, un ennemi qui se dessine.
L'antagoniste qui arrive.
L'antagoniste, voilà, qui arrive. Et franchement, il m'a bien plu, cet antagoniste. Si tu veux, je vais te laisser expliquer un peu qui est cet antagoniste.
Il ne faut pas trop spoiler non plus, mais c'est vrai qu'il me semble entend parler assez vite. Donc, il s'appelle Charles Maryse.
Dans les quatre premiers tomes.
C'est assez vite. Donc, sans vous dire du pourquoi, de comment il sort... Donc Charles Maryse est un Anglais qui lui aussi avait un objectif à atteindre au Japon, qui n'a pas pu être atteint pour l'instant. Et ouais, il en veut carrément à Isabella pour deux, trois raisons. Mais c'est pas juste le gars aigri. En fait, un peu plus loin, on en apprend sur son passé. En fait, bon, s'il en est là, c'est pas spécialement sa faute non plus. Donc ça fait partie des antagonistes intéressants. C'est pas juste un méchant pour être méchant. Donc j'attends de voir ouais, jusqu'où il va aller celui-ci, parce que dans le 10, il y a une bonne évolution. À voir voilà, où, comment ça va se terminer. Mais quand tu parlais aussi de Isabella, de sa façon d'appréhender tout ça, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle, malgré qu'elle soit aristocrate et tout, elle regarde jamais d'un air hautain ce qui se passe autour d'elle. Elle a des fois, elle est dégoûtée où, parce que bah, les insectes et tout, quand ça fait des semaines qu'elle n'a pas mangé de viande, qu'elle n'a pas bu de lait, elle n'en peut plus. Mais bah, comme si nous, on nous privait de quelque chose auquel on est habitué depuis tout gosse, on pèterait juste un câble. Mais quand à côté de ça, elle va croiser des Anglais, des missionnaires qui habitent là depuis un moment et qui traitent les Japonais de singes parce qu'ils sont complètement sous-développés, elle ne leur rentre pas dans le lard, mais elle leur fait bien comprendre qu'il va falloir qu'ils se détendent un petit peu. Donc c'est bienveillant.
Et ouais, puis au niveau graphisme, hein, je vous montre, pour ceux qui sont sur le live, je montre à la...
Okay. Alors, la sympa, page hein. Qui, du coup, est de ce côté-là, elle prend Ito et elle le secoue comme ça, je sais plus pourquoi, voilà. Mais voilà.
Elle le secoue parce que en gros, il lui avait pas dit qu'il avait le profil parfait pour l'emploi, en fait.
C'est ça, c'était au tout début, quand elle le rencontre. Je me rappelais plus pourquoi elle le secouait comme un prunier.
C'est ça, parce que Isabella Bird, elle est complètement un peu, elle est complètement déjantée, parce que déjà c'est une femme en avance sur son temps, parce que les femmes au 19e, à cette époque-là tout particulièrement, c'est vraiment la maîtresse de maison qui reste dans son coin, surtout au niveau de l'aristocratie, voilà, c'est très particulier. Et Isabella Bird, elle fait office d'ovni parfois sur ça. Elle le secoue comme un pommier, voilà, c'est exactement ça. Elle n'hésite vraiment pas. Et d'un côté, il y a sur certains points où elle reste quand même, on sent le petit côté aristocrate, où par exemple, quand elle doit se baigner dans les bains publics, où elle a du mal à se mettre nue devant les autres.
Bah surtout qu'à cette époque, ils étaient mixtes, les bains. Donc c'est encore pire.
Voilà, c'est ça.
C'est pas comme les onsen actuels, où c'est bien séparé. Nana, c'était tout le monde, allez hop.
C'est ça, on sent vraiment qu'elle a cette gêne, alors que pourtant, bon, bah, c'est une femme qui fonce dans le tas, qui y va. Et là, pourtant, voilà. Une femme de caractère qui s'affirme, très rare à cette époque, tout à fait.
Ouais. C'est ça. Mais tu vois, à côté de ça, l'auteur a quand même pris le parti de mettre d'autres personnages féminins qui ont quand même du caractère et qui ne cessent pas marcher sur les pieds. Je pense notamment à la femme du gouverneur, dont j'ai bouffé le nom. En fait, le gouverneur, à un moment, il dit « Vas-y, fais ce que tu as à faire, je sais que tu géreras. » Et elle manipule tout de loin.
C'est
trop fort.
C'est vrai que la femme du gouverneur, et pourtant au début on dirait pas, on se dit bon bah elle est assez en retrait, mais très vite elle va prendre vraiment un rôle assez important, et pareil elle manipule bien son monde, et j'avais été choqué, bon après c'est pas tellement un spoil, à un moment il y a une scène vers le tome 6 je crois, où elle fait une réunion avec d'autres femmes de l'aristocratie britannique, et on s'aperçoit que les autres femmes parlent beaucoup entre elles, disent ah tiens machin... elle a fait ça, hein, c'est pas bien, hein, c'est pas très poli, et qu'elle, elle est complètement à côté, elle fait aussi figure d'ovni chez eux, quoi, et ça j'ai vraiment bien aimé, je me disais ça fait un personnage particulier, c'est cool.
Ouais, elle est un peu de la même trempe qu'Isabella, en fait. C'est ça. Pourquoi en étant une femme de la haute, il faut être une grosse bourge qui n'a aucun intérêt à part raconter des ragots sur tout le monde autour toute la journée, quoi.
C'est ça, voilà.
Donc franchement, ouais, les personnages sont bien travaillés. Moi, j'aime beaucoup Ito. Je sais pas toi, mais j'aime beaucoup.
J'ai adoré Ito.
Notre interprète, guide.
Il me fascine parce qu'il est à la fois est très calme, très stoïque. Il boude assez souvent quand même, parce qu'il prend certaines choses mal et on sent qu'il boude.
Il est très susceptible
et il a vraiment un problème avec tout ce qui est sucré.
Ah grave.
C'est excellent.
Il est accro aux bonbons.
Il est accro aux bonbons et ça casse littéralement le mythe du personnage stoïque, très calme et tout, parce qu'à un moment ils arrivent dans une ville qui est spécialisée dans les confiseries, et il fait le tour de toutes les échoppes de confiseries.
Il balance tout son argent.
Il balance tout son argent dedans, et ça c'est énorme.
C'est clair, c'est énorme. Il est drôle. Même un passage peut-être un peu plus loin où on voit qu'il se nettoie les ongles, qu'il refait ses mains, il fait toute sa petite manucure, et là Isabella qui regarde ses mains, elle fait « Mais je vais passer pour une pécore en fait, vas-y fais voir comment tu fais !» Ça lui était même pas venu à l'esprit que s'ils allaient rencontrer des gens, il fallait se nettoyer les ongles. Lui il fait « Non mais voilà. Je vais pas me présenter comme ça, je suis pas un bouseux, non ?» Il fait « Ok !» Donc ouais, non, il est très cool.
Voilà, c'est un peu ça, donc du coup, c'est pour ça qu'il plaît vraiment ce personnage, et puis surtout... Je sais pas si t'as ressenti ça, moi, à un moment, je me dis, c'est l'inverse qui commence à se produire, c'est-à-dire que c'est Isabella qui en apprend plus à Ito que Ito n'en apprend à Isabella.
Ouais, ouais, complètement.
On a vraiment ce retournement de situation, et au final, à un certain moment, Ito ne fait office vraiment que de traducteur, et non pas... au début, on le voit qu'il l'aide, il lui explique vraiment les traditions, comment ça se passe, et plus on avance dans le récit, plus Ito fait vraiment juste office de traducteur, et Isabella va d'elle-même... C'est plutôt Isabella qui va lui apprendre, bah tiens, la culture européenne, elle se passe comme ça...
Ouais, elle prend ses aises, en fait, on sent que vraiment elle se sent bien au Japon, et qu'elle a pas peur, en fait, voilà, c'est... Elle est pas en terrain conquis, mais presque en terrain familier, en fait. Donc ouais, il est là, parce que parler avec les Japonais, c'est encore impossible, mais... Non, vraiment très très cool. Et j'ai bien... peut-être un truc que je voulais dire, mais je sais plus. Je sais plus, ça va me revenir, j'espère.
j'ai bien aimé aussi le côté. Alors, l'autrice. Alors, je sais pas si c'est une autrice. Taiga Sasa.
À votre avis, Taiga Sasa, homme ou femme?
Taiga Sasa, homme ou femme?
Les paris sont ouverts. Je vérifie. Taiga Sasa, un mangaka. Il est né en 85. Il a travaillé dans le secteur des soins aux personnes handicapées mentales et il a sillonné le monde. On comprend pourquoi il a voulu écrire sur Isabella Bird alors.
Voilà, donc un homme. Donc le mangaka, donc Sasa, il a pris le. Il a pris dans le récit, par exemple, les personnages qui parlent japonais, il le met dans un dialecte un peu japonais, histoire que nous-mêmes, on ne comprenne pas ce que disent les japonais dedans, et derrière c'est traduit par Ito, et à un moment quand il y a les longs dialogues on voit directement écrit en français, et du coup ça c'est intéressant parce que nous aussi on a l'impression des fois de se dire mais qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il rigole là, on a aussi cette impression comme Isabella d'être vraiment étranger au délire des japonais.
C'est clair, on est là en train de voir les bulles qu'on peut pas lire, on fait ouais ça avait l'air drôle hein, ouais bon bah tant pis.
Eh, t'es marrant de ta blague.
J'aime bien, on recommence. Donc, mais non, c'est vrai que ça nous met un peu dans l'aventure avec eux en fait. Ah si, bah, c'est bon, j'ai retrouvé ce dont je voulais parler. Un moment, c'est dans le tome 1 ou 2, quand ils arrivent dans le premier village avec Ito, et ils vont acheter des paniers pour pouvoir partir vraiment à l'aventure avec tout ce qu'il leur faut.
Oui.
Et ils arrivent dans un magasin, et Isabella elle rentre et fait « mais il n'y a personne pour le tenir ?» Et Ito il fait « oh non, il a dû partir, le patron il va revenir ». Il fait « mais personne ne va dévaliser sa boutique ?» Et là il la regarde et il fait « quoi, vous avez intention de voler quelque chose ?» Et là je fais « bim, la différence entre l'Europe et le Japon, elle se pose là !» Voilà.
C'est ça.
Ah ouais, ça m'a... Ça m'a fait plaisir en même temps, parce que quelque part, c'est toujours vrai. Ça n'a pas changé, ça. Bah, oui, dans les magasins, oui, je ne sais pas, bah mais il y a tellement de preuves, de vidéos sur Internet, de gens qui vont au Japon, même de témoignages, où j'ai moi-même des amis qui sont allés au Japon là récemment, on dit « ouais, non, mais tu te sens en sécurité là-bas, tu sais que tu peux laisser ton sac Louis Vuitton sur un banc, tu reviens une heure après, il y est toujours, quoi. »
Voilà, ça passe.
Les gens ne s'approprient pas ce qui ne leur appartient pas.
C'est vrai que effectivement, c'est bien expliqué à ce moment-là, et c'est bien foutu. On s'aperçoit que même au 19e siècle, ils étaient assez intelligents dans leur manière de penser.
Ils n'ont pas du tout la même mentalité qu'en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Donc ouais, vraiment une très très bonne découverte. Faut pas qu'on parle plus, sinon on va vraiment commencer à tout balancer. Et là, ça,
ouais, voilà.
Ça fait déjà 20 donc minutes qu'on parle d'Isabella Bird, comme quoi il y a beaucoup de choses à dire dessus.
Donc c'est édité chez Kihoon, qui fait toujours un super travail sur les couvertures, sur leur édition. Là, vraiment, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. Kihoon en général. Je crois que le manga le plus dégueulasse en termes de couverture, entre guillemets, chez Kihoon, c'est My Hero Academia, mais c'est parce que c'est des couvertures classiques.
Oui.
Sinon, le reste, ça reste tout le temps vraiment des couvertures super belles. Il y a un petit grain quand on touche la jaquette. Franchement, c'est génial.
Il y a 10 tomes actuellement et c'est toujours pas terminé. Mais honnêtement, vu comment ça se termine à la fin du 10, je pense pas que ce sera une histoire très très longue. En vrai, il y aura moins de 20 tomes. Vu à quel rythme avance leur aventure. Avance, je veux dire. Ça, ouais, je pense entre 15 et 20 grand max. Et pour le coup, c'est bien. Parce que c'est vrai que les séries trop longues, au bout d'un moment, bah, ça a peut-être tendance à tourner un peu trop en rond. Là, c'est un récit de voyage. Il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin et que ça prenne pas 8 ans, quoi. Vu que le voyage ne lui a pas pris 8 ans. Ça aurait c'est pu. Ça. Mais voilà, ça, ils auraient avancé moins vite que ça. Et pour le coup, c'est une histoire qui peut être lue, je trouve, à partir de 10 ans sans problème.
Oui.
Mais devant laquelle un adulte ne s'ennuie pas non plus.
C'est ça. À part, si vraiment il faut trouver un point négatif au manga, peut-être les débuts de chapitres qui sont souvent répétitifs.
Ouais.
Quand elle envoie une lettre à sa sœur, c'est toujours la même écriture, c'est toujours le même truc. Ma chère Henriette. Ouais.
C'est ça. C'est qu'en fait, ce que le manga nous fait comprendre, c'est que ses aventures qu'elle vit, elle retranscrit tout par lettre pour envoyer à sa sœur, pour la tenir au courant qu'elle n'est pas morte, quoi, hein, qu'elle avance au Japon et que tout se passe bien. Parce qu'on rappelle, ça se passe en 1878. Donc il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Donc compliqué. Et c'est vrai qu'effectivement, chaque début de chapitre, il y a un encadré, ma chère Henriette. 1878 en 11 de l'ère Meiji. Je suis en train de visiter cet étrange pays qu'on appelle le Japon. Donc,
ça, à chaque début de chapitre.
C'est vrai. Bah, en vrai, au bout de 10 chapitres, on ne le lit plus. Hein.
Oui, voilà. Non, mais c'était ça.
On dirait, c'est bon, c'est toujours la même chose.
WhatsApp existait pas encore. Bah, c'est ça. C'est ça, voilà.
C'est complètement ça.
Alors moi, je vais profiter du fait qu'on soit en live pour justement poser cette question qu'on ne peut pas forcément poser lors des enregistrements podcast qu'on fait en général. C'est avec ce qu'on vous en a dit, est-ce que ceux qui n'ont pas lu Isabella Bird, je vais y arriver, pardon, est-ce que ça vous motive à découvrir ce récit?
Est-ce qu'on a réussi à vous donner envie à le lire ou est-ce qu'on est mauvais? Telle est la question.
Ils diront pas qu'on est mauvais.
Non.
Ils sont gentils. Ils diront jamais ça.
Non, ils n'oseraient. Ça a l'air drôle. En vrai, il y a pas mal de passages drôles.
Il y a pas mal de... Ouais, je pensais pas. Au tout début, quand j'ai su qu'on allait lire Isabella Bird, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, mais bon. Voilà, je prenais ça un peu à la rigolade en disant, oh là, ouais, je vais m'ennuyer. Puis, les deux premiers tomes sont un peu longs à se mettre en place, mais...
C'est voilà. Pas mal d'exposition, c'est vrai.
C'est, voilà. Mais après, très vite, voilà, je trouve que dès le milieu du tome 2, c'est voilà. Toff qui dit, il veut le lire maintenant.
Joe qui nous dit aussi, pour sa chérie, mais même toi, ça te plairait, Joe, j'en suis sûre. Hein. Ouais, ça pourrait bien m'intéresser. En plus, cette période du Japon m'a toujours un peu intéressée. Ouais, c'est après l'ère Edo, c'est la transition, en fait, entre l'époque très traditionnelle. En vrai, c'est un peu l'époque de Demon Slayer, où voilà, il y a encore le côté très, très traditionnel, les épéistes, la cambrousse, et oh, un train, qu'est-ce que c'est? Bah oui, mais c'est un train, tu connais pas, t'es vraiment bouseux. Donc, voilà, ce décalage entre les deux. C'est une époque vraiment très sympa du Japon, c'est vrai.
Ça me fait un peu, la personnalité me fait penser à Adèle Blanc-Sec. Ça me dit quelque chose, ça, effectivement. Oui, c'est une petite aventure. C'est pas un film avec Audrey Tautou, si je
crois, si je me trompe pas, que j'ai pas vu non plus.
Non, c'est peut-être pas...
La grande chenille de métal, comme disait Inosuke. Tout à fait. ouais, si, je crois que c'est un peu le même principe, dans à peu près la même période, un peu fin victorien. Faudrait que regarde du
ouais,
coup.
Guito, ouais, j'ai pas forcément vu le film, mais vu de l'extérieur comme ça, oui, c'est carrément dans le même. C'est vraiment la petite bourgeoise qui découvre des choses et derrière, voilà, on a l'impression qu'elle va se planter, sauf que non, elle est encore plus courageuse que certains aventuriers déjà.
Mais c'est vrai que même au niveau des couvertures, Isabella, on voit qu'elle change, qu'elle évolue déjà dans sa façon de s'habiller, dans ses expressions, l'état de son chapeau. Dès le début, le gouverneur lui offre un chapeau traditionnel japonais qu'elle ne va jamais quitter. Donc, c'est Louise Bourgoin qui joue
Louise Bourgoin, autant pour
Adèle Blanc-Sec. Bon, bah voilà.
Autant pour moi, j'étais parti sur Audrey Tautou. La mangathèque de CBI qui dit « Vous êtes mauvais, MDR, non, je déconne, ça m'a l'air pas mal du tout. »
Non, attends, franchement,
si on a réussi à... Si on a réussi à vous donner envie, c'est parfait, c'est le but de ces podcasts.
Exactement. Est-ce qu'on passe à la suite, du coup, à la deuxième série?
Ah bah oui, allons-y, c'est parti. On va passer à la deuxième série, donc, qui est éditée chez Panini Manga. Il s'agit de Season Life au scénario. C'est Kumoto et au dessin c'est Kawaguchi.
Et c'est une perfecte édition, réédition d'un manga qui était en 3 tomes à la base et qui du coup sous format perfect est en 2 tomes. Donc si vous voulez une série courte, c'est le moment, il faut foncer. Alors, de quoi ça parle ? On va suivre un homme dont j'ai mangé le prénom.
Alors, c'est Monsieur Takeda.
C'est ça, Monsieur Takeda, qui apprend qu'il a un cancer du foie et du pancréas, qui est donc un cancer incurable, surtout en 99, l'époque à laquelle se passe l'histoire. Je suis en train de rigoler parce que j'ai dit que j'ai mangé son prénom et osé me dire au crachoir.
Ouais, c'est ce que je vois aussi.
Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le recracher. Et donc, il apprend qu'il a ce cancer incurable, sachant que cet homme, 14 ans plus tôt, a perdu sa fille qui s'est fait assassiner et dont on n'a jamais résolu le meurtre. Et il a perdu quelques années plus tard sa femme du même cancer. Il se dit, bon, je sais qu'il me reste 6 mois à vivre, je ne vais pas souffrir bêtement, me laisser dépérir. Autant que je me suicide, j'ai plus rien à perdre. Et quand il se passe la corde autour du cou, le téléphone sonne et on lui indique qu'on a retrouvé le squelette de sa fille dans un chantier. Et sachant que le meurtre a eu lieu 14 ans et 6 mois plus tôt, qu'il lui reste 6 mois à vivre et que le délai de prescription pour les meurtres au Japon c'est 15 ans, il se dit ok, les 6 derniers mois de ma vie, il faut que je les utilise pour résoudre le meurtre de ma fille. Ce sera ma dernière action. Et donc on va le suivre tout seul mener son enquête parce que c'est vrai que c'est un défaut de la police japonaise encore actuellement, paraît-il, que si on ne trouve pas coupable, c'est qu'il n'y a pas eu de crime. Sinon, ça les discrédite. Donc, aucun flic ne veut le suivre. En plus, en même temps, c'est bon, c'était il y a 14 ans, on ne trouvera jamais aucun indice. Mais lui, il ne se démonte pas. Il dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais remonter sa piste parce qu'il sait où est-ce qu'elle a été sur ses derniers jours. Il sait comment y aller et il sait qu'il va trouver des indices sur place. Et au fur et à mesure qu'il va repasser par là où elle est passée, elle, on va remonter dans ses souvenirs à lui, parce que c'est des endroits où il a déjà été avec elle. Malheureusement, il n'a pas eu un passé très très satisfaisant avec sa fille parce que c'était un salaryman avec un très très haut poste. Donc c'est une histoire qui est assez mélancolique. Mais en même temps, à chaque fois qu'on va tomber dans une phase comme ça de tristesse, il va tomber sur un indice de ouf et ça va repartir. Et là, il se remotive à fond et il lâche pas l'affaire. Donc vraiment, on est dedans du début à la fin. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai adoré.
Alors moi, ayant adoré le bateau de Thésée, forcément, une enquête policière comme ça, avec un drame qui s'est passé 14 ans avant, il faut tout retrouver, ça pouvait que me plaire, déjà.
De c'est base, le synopsis de base, est un peu le même.
Voilà, ça pouvait que me plaire. Alors, l'édition, elle est plutôt pas mal, hein, pour ceux qui veulent voir. Là, je montre à l'écran par rapport à ma main, j'ai des grandes mains. Elle est vraiment cool. C'est assez fin, entre guillemets. C'est une perfecte édition, comme on disait. On passe de 3 tomes à 2. Ce qui est dommage, c'est qu'à la limite, ils auraient pu en sortir 3. Pareil, ils auraient dû peut-être la rééditer en 3 tomes. Après, je ne sais pas comment était foutue la première édition.
Ouais, je me demande est-ce qu'ils découpaient la fin du premier et du deuxième tome. Bah, vu comment là, c'est coupé de façon logique, je trouve. Alors,
C'est ça. Je me suis posé la question comment est-ce qu'il découpait ça, parce que forcément, le premier tome est coupé bien avant. Donc, est-ce que c'est au niveau de la première découverte de photos, là où il trouve l'espèce de marque bleue sur
c'est
la
possible.
Photo, peut-être ça.
C'est possible. Peut-être.
Alors après, à voir. Donc le récit de base me plaisait vraiment beaucoup. Je connaissais pas du tout les deux mangaka qui s'en sont occupés, donc je me disais c'était encore plus une découverte. Le scénario va assez vite, je trouve. Alors, certains apprécient quand ça va vite, quand on enchaîne très rapidement. Moi, dans ce genre de récit, je prends l'exemple de Monster ou du bateau de Thésée, j'aime bien parfois que ça prenne son temps, que ça monte en pression tout doucement, voilà, histoire de bien se mettre dedans comme une vraie enquête policière. Là, je trouve que ça va super rapidement et ça m'a un peu gêné au début. Je trouve qu'il trouve les... Je trouve qu'il voit les indices super rapidement, il les enchaîne vraiment bien. Alors ça doit être pour un lambda, ça doit être un enquêteur de malade quand même.
Il a raté sa vocation de flic.
Il a raté sa vocation carrément, parce que c'est impressionnant. Il trouve des choses, il arrive à bien observer et on sent vraiment qu'il a l'envie de bien faire. Il a l'envie de, il regrette vraiment de ne pas avoir passé plus de temps avec sa fille, donc qui s'appelle Sawako. Il regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Il veut vraiment se faire pardonner. et il met vraiment tout son cœur, et l'enquête enchaîne, même si ça s'enchaîne vite, c'est pas non plus gênant, ça va vraiment dans le sens du récit, même si parfois je trouve que la manière dont il trouve les indices est peut-être un peu hasardeuse et très ça tombe du ciel, quoi. On a l'impression que c'est vraiment, oh tiens, allez, on va faire avancer le scénario.
Bah, surtout le coup de la tâche, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, la petite tâche bleue, effectivement, ça fait presque facilité scénaristique des fois. C'est vrai.
C'est la petite facilité, c'est le en termes violent, c'est le ta gueule, c'est magique.
C'est presque ça.
Alors par contre, au niveau graphisme, j'ai beaucoup aimé. C'est super bien fait. On a pas mal de détails dans certaines scènes. On comprend vraiment qu'il est un peu seul contre tous.
Ouais.
Par exemple, les scènes où il se retrouve vraiment en ville, on sent vraiment qu'il est vraiment seul. Ça fait ce genre de choses, par exemple. Là, je suis en train de montrer la cinquième de couverture du. Non, le dos sur un manga. Sur
ah
un
oui, livre, c'est là, c'est vrai. Ah, c'est pas la tranche, ça ?
Alors, je sais plus, c'est une très bonne question.
Mais ça, effectivement, c'est la quatrième de couverture, tu as raison.
C'est ma compagne qui est dans ce corps de métier qui saurait me répondre, vraiment. du coup, voilà, sur ce genre d'image, par exemple, on ressent vraiment le fait qu'il est seul contre tous. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce qu'on retrouve plusieurs fois ce genre de planche dans les deux tomes. Mmh. Et c'est vraiment bien réalisé. Donc, Kawaguchi, au niveau du dessin, il est parfait. J'ai adoré, même si je dis que ça s'est passé très rapidement, j'ai vraiment adoré parce que c'est une très bonne expérience. Je suis vraiment friand de ce genre de récit-là. Donc, comme je disais, j'avais adoré le bateau de Thésée. Je suis en pleine lecture de Monster. Les liens du sang aussi que je mets dans cette catégorie de thriller. Donc, j'adore vraiment ça. Et là, j'ai vraiment pas été déçu. C'est une très bonne découverte pour moi. Je ne connaissais vraiment pas du tout ce récit.
Moi non plus, j'ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que le fait que ça se passe en 99, bah, il galère encore plus. Parce que pareil, pas internet, pas de portable. Donc, autant de nos jours, bah vas-y, on fait un tracé GPS, on remonte dans les archives et tout. Là, non, il fait tout avec son petit calepin, avec son annuaire, et c'est parti. Et c'est vrai que effectivement, il y a des passages qui vont un peu vite, mais il y en a où on voit vraiment quand même toutes les étapes par lesquelles il passe, tout ce qu'il galère à faire pour trouver des gens à les interroger, pour en déduire ses indices et tout. Donc, même dans le tome 2, parce qu'à un moment, il y a un flic quand même qui va se mettre avec lui pour résoudre cette affaire. Il déploie des moyens. Le gars, il a un cerveau. C'est pas un cerveau. Gars, il est dingue.
Il le harcèle au début.
Ah ouais.
Il dit, ouais, j'ai trouvé ça.
C'est clair. Et c'est vrai qu'au niveau du dénouement, alors c'est jusqu'à la. Allez, 4 pages avant la fin, on sait pas s'ils vont y arriver. Hein. Vraiment, ça nous tient dedans. Ah bah, ça, est-ce qu'il le trouve
fait Il va falloir que tu le lises.
Ouais. Je le dis pas, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. On ne spoil pas dans cette émission. Ça nous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. Avec un dénouement qui m'a un peu retourné aussi. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, c'était cool.
Non, c'est voilà. Et puis, alors, je sais pas si tu as eu cette impression. Moi, je l'ai eu au fur et à mesure des pages. Tu t'aperçois que plus il avance dans son enquête, plus il remonte la pente.
Oui.
C'est-à-dire qu'au début, on a un homme qui est vraiment au bout de sa vie. Il fait une tentative de suicide et il est arrêté in extremis par le téléphone qui sonne et on lui dit « on a retrouvé le squelette de votre fille ». Donc voilà, tout de suite, on a envie de savoir comment ça s'est goupillé. Et plus on avance dans l'enquête, plus il découvre des indices, plus il avance, et plus lui-même il remonte la pente et il reprend goût un peu à la vie. Et ça, j'ai trouvé vraiment le scénariste a vraiment fait du bon boulot à ce niveau-là.
Bah c'est ça, vu qu'il progresse et qu'il sent qu'il peut y arriver et qu'il se rend utile, ça doit lui redonner un petit peu du baume au cœur quand même. Donc,
voilà, c'est ça.
Ça l'aide. Donc ouais,
c'est très bien.
Je pense qu'on va en parler moins longtemps qu'Isabelle Haberd parce que bah il y a que 2 tomes, donc si on veut pas tout spoiler.
L'inconvénient malheureusement de ce genre de récit, c'est que déjà comme tu dis, il y a que 2 tomes et puis vu que ça s'enchaîne très vite, on tombe très rapidement dans le spoil et je trouve vraiment dommage de vous spoiler.
Seul élément. Quand c'est une enquête, si on balance à moitié, autant dans Isabella, oui, on pouvait donner quelques infos. Il y a eu un incendie, le coup du papier et tout. Voilà, c'est random. Là non. On a parlé d'une tache bleue, voilà, vous de découvrir ce que c'est que cette tache bleue. Mais c'est le seul élément qu'on voilà. en a, quoi.
Et puis après, je vous conseille de prendre les deux tomes d'un coup, parce que le cliffhanger du tome 1, voilà, vous donne envie d'enchaîner tout de suite.
Ah bah, moi, je le vois à la boutique. Hein, tous les gens qui m'ont pris le tome 1 sont venus le lendemain chercher le 2. Et je leur dis, vous avez dit qu'il fallait prendre les deux. Vous m'avez pas cru.
On vous le dit. Quand on vous dit qu'il faut prendre les deux tomes d'un
coup. Je les ai lus. Il a fallu que j'attende que le 2 sorte et j'étais pas bien.
C'est ça. Ça se lit. Après, en plus, ça se lit assez rapidement.
Oui.
On pourrait croire, comme dans Monster, qu'il y a beaucoup de dialogues, etc. Il y a du dialogue, hein, mais ça reste quand même assez rapide à lire. Je pense que quelqu'un qui lit bien, en une trentaine de minutes, c'est bouclé, quoi. C'est vraiment, voilà. C'est pas aussi rapide à lire que Les Liens du Sang.
Non. Non, il n'y a rien d'aussi rapide à lire que Les Liens du Sang. Mais. Non, mais c'est vrai que tous les passages où il est tout seul, où il met son enquête tout seul, on suit un peu le fil de ses pensées, mais il n'y a pas de dialogue. Il ne parle pas tout seul, donc forcément, ça s'enchaîne très vite.
Donc, tout à fait.
Vraiment. On vous le conseille chaudement.
Voilà. Donc, pareil, hein, même question que pour le premier. Est-ce que, avec ce qu'on vous en a dit, est-ce que ça vous motive à prendre donc Season Life, édité chez Panini Comics? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et même pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas aussi à nous le dire pour Isabella Bird et Season Life en commentaire, si vous avez apprécié ce qu'on en a dit et si du coup vous allez vous lancer dans l'aventure.
Eh bien, OC est très très enthousiaste. Donc, voilà. C'est bien, c'est cool. Mais je voulais dire un truc, encore une fois, je sais plus. C'est fou.
C'est parce qu'on n'a pas voulu lui dire le meurtrier au final. C'est
exactement.
On a bien fait, je pense.
Je pense aussi, ouais. Non, c'est vrai que même si vous n'êtes pas habitué au thriller, si ce n'est pas forcément le genre qui vous attire le plus, je pense que... Moi, voilà, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais du fait que ce soit un particulier qui mette son enquête tout seul, ce n'est pas la même saveur que si c'est toute une équipe de flics. Quand tu liras Gannibal, tu sauras de quoi je parle.
D'accord. Ouais, et puis, encore une fois, je trouve ça fascinant quand même. Les mangas thrillers, ils réussissent toujours à... Enfin, chez moi, ça fonctionne toujours. Et à chaque fois, je me dis, mais ça en ferait des séries géniales.
Mais Season Life, il pourrait totalement faire un live action qui serait super bien fait.
Voilà.
Tout est réaliste dedans. Il n'y a pas de truc, machin, il n'y a pas de surenchère. Il pourrait en faire, un film. Un film de 2 heures, on est bon.
Ouais, même, voilà, ouais.
Pas besoin d'une série.
Là, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer dans l'aventure live action sans problème, il n'y a aucun souci.
On va contacter les studios, parce que là, il faut faire quelque chose, ça ne va pas du tout.
Les studios aussi, Netflix, si vous nous entendez,
hein,
n'hésitez pas.
Alors, Joe est très motivé avec sa chérie aussi pour Season Life, plus que par Isabella Bird. C'est plus court, donc...
C'est plus court, et c'est peut-être... Bah c'est vrai, hein, comme on dit, le slice of life, c'est toujours un peu, voilà, on peut tomber sur, c'est vraiment très, très varié. Et,
il y a des belles découvertes, et il y en a, on s'ennuie, il y a un peu de tout, parce que c'est vraiment une catégorie fourre-tout, donc bon. Ah, Orta est plus sur Orta, Isabella. Ouais.
Pour Isabella.
En même temps, ouais, c'est pas la même époque.
C'est ça. Après, Isabella est très intéressante pour découvrir, oui, comment fonctionnait le Japon à cette époque-là. Donc, ça, je peux comprendre aussi l'intérêt.
Oui, voilà, c'est en tout cas, moi, deux récits pas comparables.
Voilà. En tout cas, moi, ça m'a. Je remercie les personnes qui m'ont conseillé Isabella Bird, parce qu'en tout cas, ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça fait du bien de temps en temps.
C'est vrai. Il faut se forcer à lire rapidement... quelque chose.
Ouais. Je vais quand même très rapidement regarder du shonen parce que bon, ça me manque un peu.
Des fois, on se vide un peu la tête, c'est bien. Toff nous dit, Isabella, vu que j'ai déjà lu Season Life, c'est vrai, et tu avais beaucoup aimé, tu nous as dit. Donc voilà, tu vois ce qu'il te reste à faire maintenant.
Voilà. Donc, direction Isabella Bird, voilà.
Du coup, ouais, je ne sais pas trop vers quel genre, en dehors de ma zone de confort, je pourrais me lancer, moi. Parce que je dis tellement un peu tout. À part du shonen pur et dur, en vrai. Faudrait que je me lance dans un vrai shonen de base. Après, j'adorais Macha, donc en vrai, je suis dedans, quoi.
Ouais.
C'est après, le shonen de base. Hein. Un gars un peu nul qui va devoir devenir fort, et puis il a des amis, puis il a un rival, et puis il va avoir une chérie dans 10 ans peut-être. Enfin, voilà.
Naruto. Si vraiment tu veux du shonen de base comme ça, Naruto.
Fairy Tail, j'ai essayé, hein, j'ai pas réussi. Naruto, au secours.
C'est vrai que Fairy Tail, j'ai essayé aussi, j'ai pas accroché et pourtant ça aurait pu.
Orta, tu dis Dragon Ball c'est nul alors que c'est toi qui m'as fait regarder ça toute ma jeunesse, je rêve.
Dragon Ball c'est nul. D'ailleurs Dragon Ball, on a appris cette semaine qu'ils allaient refaire une édition 100% couleur.
Tout à fait.
Ou la semaine dernière, je ne sais plus.
Tout à fait. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore assez d'éditions des 42 tomes de Dragon Ball, tada, voilà, vous allez pouvoir prendre une édition de plus.
Une nouvelle édition pour 2024, je crois que c'est en mars, ils sortent les deux premiers tomes en mars.
C'est possible, ouais.
Donc ça va. Orta qui dit, ce sont les heures sombres de ma vie, mon enfance. J'étais encore trop stupide.
Oui, Isabella Bird, c'est mieux. Ah non, là, mais attention, il va se faire bâcher. Hein.
Non, vraiment, après, si vraiment tu veux tomber sur du shonen de base, oui, je pense que Naruto, c'est voilà.
Ouais, mais je connais toute l'histoire, donc... Et puis, j'ai pas envie de lire 72 tomes.
Ouais, après, c'est vrai que les shonen... faudrait un shonen court.
Ouais. Non, Bleach, 74 tomes, non. J'ai pas envie. C'est mort.
Bleach, c'est très cool. Bleach, c'est très cool. Tu devrais lire Bleach.
À la limite, je regarderais peut-être plus l'animé dans ce cas. Et qu'est-ce qui est mieux dans Bleach, l'animé ou le manga?
Alors, si on parle de la première partie de l'animé, je te dirais c'est le manga. Par contre, là, l'animé qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est te prend une claque. Visuellement, c'est une claque.
Ah, Orta hurle le manga.
Oui, majoritairement le manga. Mais là, les épisodes qu'ils sont en train de diffuser, encore une fois, c'est une belle claque. Hein.
Ah, c'est vrai que
l'anime, oui, la première partie de l'anime a très mal vieilli, effectivement.
Oui, on parle de Death Note aussi, parce que dans le genre animé qui a mal vieilli, au secours, hein. À se poser là. Hein.
Ah bah ça, Death Note, c'est vrai que... Moi, Death Note, j'aime bien Death Note, hein. Je l'ai découvert là cette année, mais il y a trop de blabla.
Alors, j'ai trouvé ça stylé jusqu'à un certain point auquel tout le monde pensera, dont je ne parlerai pas pour ceux qui n'ont encore ni lu ni vu Death Note.
Il y en a beaucoup, effectivement. Il y en a beaucoup.
Ce passage-là, j'ai fait non, là c'est bon, ils viennent de tuer la série pour moi. Bon, j'ai continué jusqu'à la fin quand même, et la fin a été quand même assez satisfaisante, donc c'est cool. Mais après ça, j'ai regardé l'animé de Platinum End de Oba et Obata, je l'ai trouvé mieux. Que ce soit l'histoire, que ce soit l'animation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour les fans de Death Note, mais si vous ne connaissez pas Platinum End, mais foncez. C'est en 14 tomes et je crois qu'il y a genre 25 épisodes. C'est génial et j'ai jamais vu une fin aussi finale. C'était dingue.
Alors, à la limite, si on parlait d'un shonen court, je te conseillerais plutôt Yu Yu Hakusho.
D'accord. À la limite. Ouais, mais je vais encore me prendre des bastos. Là, mais j'ai pas aimé Hunter x Hunter. Quel. Est-ce que, du coup.
Est-ce que c'est la même chose qu'Hunter?
Ça s'appelle l'attaque des Titans.
Ouais, sinon il y a ça, ouais, apparemment un petit shonen, rien vraiment de.
L'attaque des Titans, pour ceux qui ont la ref de cette magnifique chaîne YouTube Crazy Bomb World qui fait des parodies en redoublant les mangas et l'attaque des Titans. Ça a été une des meilleures blagues que j'ai entendues de ma vie. Voilà, je m'y attendais pas.
C'est pas mal. C'est pas mal. Après, t'as les.
Coucou Lou Garox.
T'as les chevaliers du Zodiac aussi, si tu veux.
Ouais, faudrait que je tente parce que j'ai jamais ni lu ni vu quoi que ce soit des chevaliers du Zodiac. Je suis une inculte dans ce domaine. Donc,
L'anime, le premier. Les chevaliers du Zodiac, c'est comme Bleach. Le premier anime est très mal vieilli, je trouve. Ah. Mais par contre, il y a des OST vraiment magnifiques. Et par contre, le dernier arc du manga. Qui a été fait en 2006, je crois. Mm-hmm. Là, par contre, c'est vraiment de la bonne cam. Mais effectivement, la première partie de l'animé, qui était dans les années 80, forcément, bah, ça, c'est un peu mal vieilli maintenant. Après, l'édition perfecte est vraiment bien.
C'est ce que j'allais dire, à choisir, autant lire l'édition perfecte dans ce cas.
Exactement, voilà.
Qui est très, très,
très quali, et voilà. Donc, si tu veux, je te lance le défi de lire Senseiya.
Ah, ça me fait deux défis d'ici la fin de l'année. N'oublions pas celui que tu m'as lancé pour Halloween.
C'était lequel?
Ah, Spiral. Oh,
oui, mais ça, oui, mais ça, c'est voilà, ça, c'est un petit défi. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose.
Un petit défi. C'est un gros défi pour moi, je pense que vraiment.
Tu sais que maintenant, à cause de toi, dès que je vois une limace par terre, je n'ai qu'une envie, c'est la prendre en photo et te l'envoyer en story.
Si tu fais ça, je te banne.
À chaque fois. À chaque fois j'y pense, je me dis non, ça ne va pas marcher.
Oh non, quel enfer.
Mais non, mais à ce moment-là, alors pour Halloween, il va falloir que toi aussi tu me donnes un défi. Alors sur un, elle va me trouver un truc où il y a des petits trous, c'est sûr.
Bah Junji Ito, il y en a un avec des trous, non?
Bah vas-y, hein. Écoute, hein. Je vais lire celui-là et puis toi tu lis Spirale. Hein. Voilà, hein.
Ah oui, Horta qui nous dit « Pense à Nami qui met son petit escargot dans l'oreille ». Alors sachez que, avant que je ne regarde le premier épisode du live action de One Piece, Alex m'a dit « Ah, tu vas pas kiffer, il y a les escargophones ». Je fais « Qui est l'imbécile qui a pondu cette idée d'escargophone ?» Alors déjà, c'est le nom. En vrai, ça va, j'arrive à prendre sur moi. Alors certes, ils sont énormes, alors, quand j'ai vu la première fois, je fais « Mais bon, ils ont une tronche presque humaine en fait, hein. Ils ont une bouche, ils ont des cils, et finalement ils le prennent pas pour le mettre sur leur oreille, ils ont un haut-parleur. Donc, bon. Ouais,
justement, c'est encore plus flippant.
Ah non, 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 s'ils se le collaient sur la tronche, ce serait pire. Non, je pourrais pas supporter ça. Et effectivement, son petit écouteur avec son mini escargot, je... Bon, allez, c'est pas grave, les écouteurs dans notre monde ne font pas ça, donc c'est très bien. Quel enfer. Et Chiroda, l'imbécile qui a sorti tout One Piece. Oui, bah je vais lui envoyer une lettre, lui dire que l'escargophone, c'est non. C'est pas possible. Non, mais...
Loup-Garox, il dit, moi je m'amuse, je modélise des créatures étranges.
Oui, mais tu es étrange, Loup-Garox.
Après, je le connais pas, je pourrais pas dire...
Ça ne saurait tarder.
Oh là là.
C'était un habitué de la chaîne avant, donc ouais. Je connais bien le personnage. Ah non, mais One Piece, c'est non, cet univers, moi je peux pas, il a un grain, dit Horta. Après, cela dit, est-ce que c'est pas là la marque des génies qui arrivent à créer un univers mais entier et qui reste cohérent? Parlons de Harry Potter, parlons du Seigneur des Anneaux, parlons de l'attaque des Titans. Voilà, ils sont partis de rien et ils ont fait un truc de ouf qui se tient. Et ça, c'est dingue.
C'est ça, sans incohérence ou presque, mais ça, c'est vraiment cool.
Il y a toujours une incohérence par-ci, par-là.
Ah bah on peut pas être parfait.
Surtout sur son 5 tomes, à limite sur quelques tomes de romans, ok c'est bon, c'est facile de les corriger et de rattraper le tir. Mais mais ouais, il y a une série de romans comme ça que j'adore et que je recommande vraiment à tout le monde, même si vous lisez pas de romans. C'est une autrice française qui est très très fan de manga d'ailleurs, et il y a quelques temps elle parlait de peut-être faire une adaptation animée de ses romans. Je sais pas où ça en est, j'espère que ça arrivera un jour parce que ce serait dingue. Ça s'appelle... Ah, oh, je l'ai perdu. Voilà, La Passe Miroir.
Ah, oui.
En 4 tomes, et c'est incroyable. Vraiment, c'est la seule fois où, quand je suis arrivée à la fin du tome 4, j'ai repris immédiatement au début du tome 1 et j'ai réenchaîné les 4 tomes. Je ne pouvais pas lire autre chose. C'était pas possible. J'étais tellement dedans, l'histoire était tellement folle. Et c'est la seule fois où ça m'a fait ça. Donc vraiment, je recommande à absolument tout le monde de lire La Passe Miroir. 4 tomes, c'est vite fait. Vraiment.
On en parlait en début de live, comme quoi des fois il y avait certaines séries, quand ça s'arrêtait, forcément.
Ah là c'était la dépression.
D'autres.
Là c'était pas possible. Et je sais que j'ai pas du tout été la seule. Hein. Au contraire. Donc, Alors qu'est-ce que ça dit un peu dans le chat? J'attends en live action le gars dans ses collants et sa robe en cygne tout maquillé. Tu vois, je pense que
la live action numéro 3.
Bah, ouais. Y a eu Baggy le clown qui sort d'un film d'horreur. Alors pourquoi pas un gars en collant et en robe de cygne, hein.
Non mais Baggy et les autres personnages, ça reste pour l'instant des personnages faisables.
Tu vois, moi j'attends Jinbe.
Ouais voilà, Jinbe, comment tu vas le faire?
J'attends
c'est
Big Mom.
Pour moi ça n'ira, voilà, ça n'ira jamais au bout. Ça n'ira jamais au bout.
Bah après c'est soit vrai. Ils mais... prennent le pari comme Usopp, ils n'y ont pas fait son grand nez. Mais on sait que c'est lui. Soit ils prennent le pari de faire le maquillage à fond et ça va être trop bizarre.
Bah, j'ai eu un débat avec une collègue qui me disait ce matin comme quoi elle avait été déçue que Usopp il lui ait pas mis son long nez. Et moi je disais bah non, au contraire, c'est assez intelligent parce qu'au moins ils sont pas tombés dans l'exagération sur l'équipage au moins.
C'est ça, c'est pas la caricature de cosplayer. C'est un personnage, c'est un humain. Les humains n'ont pas un nez comme ça, donc bah il n'en a pas.
Et c'est dommage parce que pour moi, si tu fais un live action One Piece, malheureusement, bon, tu vas peut-être te couper d'une partie des fans et tout, mais je m'attendais plus à voir un truc genre Pirates des Caraïbes. Voilà. Live action. Hein. Parce que malheureusement, des fois, t'as des choses un peu trop surréalistes que tu peux pas forcément retranscrire. Et One Piece, à un moment, ils vont vraiment être bloqués. Et c'est pour ça que pour moi, ils peuvent pas aller au-delà de Marineford, voire même avant. à mon avis, ils vont s'arrêter à Ennis Lobbies. Mm. Là, déjà, ça pourrait être pas mal.
Déjà, à voir si les fans et nouveaux fans, alors je me qualifierais pas encore de fans, mais voilà, gens qui apprécient la série, vont aussi continuer sur plusieurs saisons. Il y a ça aussi, qui est pas une lassitude qui se met en place. Mm.
Après, je peux te donner un défi sur plusieurs années, sur les 20 prochaines années, c'est lire One Piece entièrement du 1 jusqu'au 105.
Misère, enfer et damnation. C'est pas un défi, ça. Ça, c'est une condamnation.
Arrête, c'est l'un de mes futurs plans de lecture.
Ah oui, non, mais parce que toi, t'aimes bien souffrir.
Je vais partir sur Naruto et ensuite, je repars sur One Piece.
Donc, c'est bien ce que je dis. Ah oui, comme dit Horta, la vraie question, c'est le Gear 5. Bah, tous les Gears, en vrai, hein.
Les Gears, tous les Gears.
À chaque fois, il a une tronche pas possible, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, là, il est tout mou, il saute dans tous les sens, tout le décor est mou. Tu fais bon, ben ouais, effectivement, comment faire ça en façon réaliste?
Donc, c'est la question.
Effectivement, je pense pas
que. Seul Netflix aura la réponse.
Ouais.
Seul Netflix a la réponse.
Moi, j'attends un live action réaliste et bien fait de l'attaque des Titans. Donc, je pense que je peux attendre longtemps. Parce que nous ne parlerons pas du film qui est juste une abomination. À moins que vous ayez envie de rigoler un bon coup. Voilà.
Ça va. Mais le concept du Gear 5, l'objectif, c'est qu'il devienne cartoon et full imagination. Là, du coup, tu dois le remettre en dessin animé. Ah oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
Vrai, il pourrait faire effectivement un mix sympa. Faire. Un peu à la Space Jam, Roger Rabbit, tous ces trucs-là.
Roger Rabbit, ouais.
Voilà, ça marchait plutôt pas mal, donc avec les effets spéciaux de 2045, vu quand est-ce que ça arrivera, il y a moyen de faire un truc sympa.
Donc, là, c'est sûr, effectivement. Mais en tout cas, voilà, on vous a présenté donc ces deux récits qu'on a appréciés. Voilà, j'espère que vous aussi, vous les avez appréciés. N'hésitez pas dans les commentaires du podcast à nous dire aussi si vous avez aimé, si ça vous a motivé à les commencer. Dans le chat, en tout cas, eux, ça vous a beaucoup motivé. Et ça, c'est vraiment cool.
Oui, et n'hésitez pas à nous dire aussi si ce concept de rediffusion live vous plaît aussi, du fait qu'on discute avec le chat, qu'on discute plus entre nous et qu'on digresse complètement sur d'autres sujets. Ce que vous en avez pensé et si ça vous donne envie de venir participer à un prochain live. Sachant qu'ils seront annoncés sur nos chaînes, nos chaînes Insta, nos comptes Instagram respectifs à Peli et à moi-même, donc oninomanga.librairie et Pelimanga. Pour les prochains lives, vous ne pourrez rien louper.
Tout à fait, n'hésitez pas à venir nous suivre pour suivre nos contenus et nos prochaines sorties. Et voilà.
Faites partie de l'aventure avec nous. Vous verrez, c'est cool, on rigole bien. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas pour cette soirée, c'était très sympa.
Bah ouais, oui, à refaire très vite.
Exactement, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et à la semaine prochaine.
Voilà, tout à fait, à la semaine prochaine. Bonne lecture à tous, salut.